Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et vous écoutez Impact Positif. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement, ils agissent, ils font, ils ont des solutions, les voici.
Il faut en fait appuyer sur les talents en fait qui viennent d'ailleurs, les talents en fait qui sont d'ici d'ailleurs aussi. Et je dis aussi toujours en fait cette expression en anglais que talent is equally distributed, but opportunity is not. Et je pense que ça c'est vraiment en fait ce qui nous motive dans mes équipes, c'est de dire comment en fait on va changer ça pour les autres personnes. Plus on va pouvoir appuyer sur des gens avec des parcours, des cultures, des vécus très différents, plus ça va en fait générer plus de créativité, d'innovation. Je vois ça comme une valeur en fait économique aussi pour la société.
Écoutez, Jingo donne de l'espoir et de l'énergie. Je suis vraiment fière de vous faire partager son parcours, sa vision et sa motivation à mener à bien son projet avec Connexio. Vous allez découvrir une jeune femme brillante qui s'est élevée par sa seule détermination. Elle fait clairement partie pour moi des leaders de demain. En fait, elle l'est déjà aujourd'hui. Jingo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Vous êtes la fondatrice d'une start-up sociale qui s'appelle Connexio. Mon objectif, rompre la fracture numérique, rendre le numérique accessible à tous, que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, celles qui sont en reconversion, les réfugiés, les jeunes des quartiers prioritaires. Vous avez une vingtaine de sites à Paris, en Île-de-France, mais aussi à Bordeaux, à Lille, également en Afrique. Vous n'avez que 29 ans. Et vous avez un parcours impressionnant. Vous avez étudié dans des universités prestigieuses, Harvard, Stanford. Forbes vous a classé parmi les 30 entrepreneurs européens de moins de 30 ans les plus influents. Vous avez remporté le Google Impact Challenge il y a 2 ans. Bref, c'est pas mal. Mais tout d'abord, Jingo, pourquoi lancer votre start-up en France? Vous avez grandi aux États-Unis. Alors en termes d'inégalité, là aussi, il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce qui vous a amené ici?
Oui, c'est une très bonne question. Je suis très ravie d'être ici, Sylvia, et peut-être pour dire un peu sur mon parcours. Je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis et je suis venue en France en 2015 pour devenir chercheuse. À l'époque, j'avais une bourse d'échange franco-américaine et je travaillais à la base à l'École d'économie à Paris où je faisais des projets de recherche qui portaient vraiment sur la variation économique des inégalités sociales, les inégalités qui étaient liées à des questions de santé pour les publics les plus vulnérables. Et donc, c'était en fait mes projets de recherche. Le fait qu'en tant qu'économiste, on ne voit que des bases de données. Pour moi, je voulais aller sur le terrain pour comprendre les enjeux. Ouais. Et donc, j'ai passé presque 2 ans sur le terrain. J'ai fait beaucoup des entretiens avec les personnes, avec des associations, toutes parties prenantes. Et c'est en fait c'est dans les 6 histoires que j'avais en fait entendu qu'il y avait des personnes qui ont dit que c'est bien que j'ai des services en fait de logement, de santé, des cours de français par exemple, mais j'ai toujours pas un réseau professionnel. Je sais pas où chercher en fait des bons accès en fait à des opportunités professionnelles, accès à des formations. Et c'est comme ça en fait, ça m'a donné en fait l'envie de pouvoir créer quelque chose, une solution immédiate. Et dans mon parcours juste avant de venir en France, j'étais consultante à San Francisco où j'ai passé quand même du temps en Silicon Valley. Et pour moi, la tech, c'était quelque chose de universel de base. C'est comme si on ne parle pas ce langage aujourd'hui, on est vraiment exclu d'une manière sociale, mais bien économique aussi. Et donc pour moi, je voulais dire comment je peux apporter une solution où n'importe où on va travailler aujourd'hui, c'est des compétences qui sont les plus sollicitées.
Et pourquoi le faire ici en France finalement? Parce que vous connaissez bien aussi les États-Unis, vous avez vu aussi là-bas de vos propres yeux les difficultés que votre propre mère a eues. Votre propre mère a eu quand elle est arrivée aux États-Unis. Il y a aussi énormément d'inégalités dans ce pays. Pourquoi finalement monter votre boîte en France alors que vous pourriez le faire aux États-Unis?
Quelquefois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que pour moi, c'était, j'étais si vraiment attirée et je pense que j'avais vu les enjeux devant mes yeux. Oui. Et pour moi, c'était, je pense que c'est question de proximité. Je passais en fait beaucoup de temps en fait sur le terrain et en fait, parmi mes premiers apprenants dans les cours, c'était aussi mes amis. Des personnes en fait, pour moi, que je voulais en fait vraiment faire quelque chose d'immédiat. Et donc, je pense qu'il y a toujours des besoins au niveau mondial et c'est pour ça en fait, on a commencé en France, commencé à Paris, dans une salle de formation et aujourd'hui on est dans plusieurs régions, on est au niveau international, mais pour moi c'était toujours en fait d'être proche en fait des enjeux, des besoins et de commencer en fait par là. Et donc je pense pour moi c'était, je pense que dans le futur, je pense qu'on peut aussi développer des solutions aux États-Unis, mais j'ai commencé en fait par la France parce que j'étais vraiment attirée et convaincue par la nécessité de déployer des solutions dans les médias.
Oui, d'accord. Et c'est ça qui a été votre déclic, hein, finalement, pour créer Connexio et d'arrêter votre métier de chercheuse, entre guillemets, pour mettre la main à la pâte. Alors, la France donne aussi beaucoup d'opportunités. Hein. Vous avez pu bénéficier d'un programme à Station F. Hein. Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Je crois que c'est le Fighters Programme, vous en avez fait partie. Ça a été aussi fondamental pour vous lancer, ce programme, ce campus?
Je pense on est très très reconnaissant d'avoir passé à Station 9, d'abord dans le programme Factors et ensuite dans le programme Founders, parce que je pense que ça a donné, je pense qu'à la base, parce qu'on était très jeunes, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, oui. simplement. Et je pense que le fait d'avoir en fait eu ce boost de confiance au réseau, c'était incroyable parce qu'on était aussi assez proches avec notre promotion, comme on était la première promotion de Fighters, des personnes avec qui je suis en train de toujours, qui ont, en fait, on partage en fait les constats, les difficultés. Et je pense d'avoir ce type de réseau, les services, les conseils, les personnes en fait qui sont aussi, qui étaient là en fait pour nous guider au début, c'était très important.
Alors Connexio, c'est donc une entreprise qui veut rendre le numérique accessible à tous. Cela passe par des formations, elles sont gratuites pour les apprenants. Vous avez, comme d'autres entreprises avant vous, sollicité des partenaires publics comme l'Île-de-France, mais aussi privés comme Google. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres entreprises? Et je pense notamment à Simplon, vous devez connaître très très bien, parce que ce sont vraiment les pionniers hein, des écoles numériques gratuites pour tous.
Oui, aujourd'hui, je dirais en fait dans l'écosystème des partenaires comme Simplon, Webport, Social Bido, je pense que 42, en fait, tous ces partenaires avec qui on travaille très bien, en fait, toutes leurs actions sont nécessaires aujourd'hui. Parce qu'on voit, en fait, d'un côté, il y a 13 millions de personnes exclues du numérique en France. C'est énorme. Oui. Et avec la crise Covid qui a accéléré la transformation digitale par 7 ans, je pense que les besoins deviennent de plus en plus urgents aussi. Et donc pour nous, en termes de nos solutions, ce qu'on porte sur le terrain, d'abord, je pense pour nous, chez Connexio, on vise aussi la gamme des compétences numériques. Et pour nous, on a commencé en termes de nos spécificités de travailler plutôt sur les compétences numériques de base. Mm-hmm. Parce qu'on voit, par exemple, et simplement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, on pense qu'ils sont des digital natifs, par exemple. Mm-hmm. Mais on voit, effectivement, il y a quand même des lacunes assez importantes. Mm-hmm. Parce que de savoir utiliser TikTok, c'est pas du tout la même chose que d'aller naviguer sur Pôle emploi. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment proposer des bases très générales, mais très importantes pour aller vers le marché de l'emploi, de débloquer des freins très importants qui sont liés.
Donc, c'est quoi, par exemple, c'est PowerPoint
C'est des outils bureautiques, c'est les outils digitaux de travail, c'est cette acculturation, mais professionnelle, d'accord, qui est très, très important. Et ensuite, pour nous, c'est vraiment, en fait, cet accompagnement aussi assez global, parce que pour nous, comprendre travailler avec des publics assez éloignés d'emploi. Ce qui est très important dans notre programme, c'est aussi d'accompagner les publics. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires sur ce qu'on appelle les soft skills, ouais, qui interviennent. On va plutôt travailler avec eux en collaboration pour en fait, compléter notre offre de formation. Donc, ça peut être des coachs, des mentors, justement, pour aider avec la préparation pour les entretiens.
Travailler la confiance en soi, notamment.
Exactement. Mmh. Et je pense que c'est vraiment tout ça, en fait, de commencer aussi avec le fait qu'il y a, en fait, toute une gamme de compétences qui sont très importantes à cibler, ajouter aussi cette offre un peu plus adaptée, cet accompagnement plus global. Et finalement, pour nous, ce qui est très important, c'est pour nous, sur toute la chaîne de valeur, ce qu'on identifiait comme important aujourd'hui, c'est aussi de travailler bien sur l'identification et la sensibilisation. Et c'est pour ça, en fait, pour nous, aujourd'hui, on fait beaucoup d'activités sur le terrain, où on va aller, en fait, directement sur place dans des missions locales, les maisons d'emploi, pour l'emploi.
Vous allez les chercher, je veux dire, c'est pas facile de les faire venir, c'est ça?
Comment, exactement.
Comment vous faites pour les trouver, finalement, ceux qui sont tout à fait concernés par vos formations?
Je pense, pour nous, il y a deux choses. On va essayer de les identifier et aussi un peu les convaincre, parce qu'il y a des personnes, par exemple, parmi les jeunes, qui pensent qu'ils n'ont pas forcément besoin de certaines formations, mais on va faire un diagnostic et voir qu'effectivement, en fait, ils ont des lacunes assez importantes. Et deuxièmement, aussi faire un travail de sensibilisation, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des stéréotype de, en fait, qui est quelqu'un qui veut vraiment aller vers le numérique. Parce qu'ils vont penser que oui, mais j'ai pas fait une formation en maths, en sciences avant, et donc je suis même pas éligible. Et donc, pour nous, on essaie de vraiment travailler sur cette chaîne de valeur, de dire, on va aller chercher les publics, on va les convaincre parce qu'on va faire, en fait, venir des développeurs, d'autres personnes, en fait, qui sont dans les professions pour montrer, en fait, je suis passée par là, j'étais pas forcément, en fait, un ingénieur Bac plus 5 avant et j'ai pu réussir. Et donc, je pense que c'est ce travail très, très important aujourd'hui d'aller identifier et orienter des personnes. Et souvent, en fait, on va les orienter vers nos parcours, vers les parcours, justement, de nos partenaires. Mais il y a, en fait, ce travail d'aller chercher et valoriser en fait tous les talents qui sont sur, dans les territoires.
Alors, justement, concernant votre public cible, vous avez commencé par les réfugiés aussi. Comment ça s'est passé au début et comment ils se répartissent vos apprenants finalement ? Est-ce que c'est plus des réfugiés, des demandeurs d'asile ? Comment ça se répartit ?
Oui, historiquement, dans mes projets de recherche, je travaillais pas mal avec des publics primaires arrivants, donc personnes réfugiées, des demandeurs d'asile. Et donc, dans les premiers cours de Connexio, par exemple, on avait eu une classe d'une quinzaine d'apprenants. Oui. Et ce qu'on avait fait, pour moi aussi à la base, pour convaincre en fait, notre premier partenaire centre de formation de nous donner une salle, c'est d'avoir en fait, des publics qui étaient sourcés par des associations comme Singa, comme d'autres associations qui agit justement pour l'inclusion des personnes réfugiées, mais également des personnes qui habitaient directement dans les quartiers pour justement faire cette mixité, cet échange. Mm-hmm. Donc ça fait partie, en fait, je pense, toujours des valeurs de Connexio, de favoriser cette mixité, cette richesse aussi dans la diversité de nos publics. Ouais. Donc aujourd'hui, on travaille toujours avec ces publics réfugiés, mm-hmm. Demandeurs d'asile, mais également aussi avec beaucoup des jeunes aussi, défavorisés, qui ont souvent un peu les mêmes enjeux parce qu'ils sont aussi en train de démarrer leur carrière professionnelle. Ouais. Y a beaucoup aussi des codes sociaux bien maîtrisé. On travaille également avec des personnes en reconversion, des personnes très éloignées de l'emploi et également avec des personnes qui sont sous-représentées justement dans le secteur numérique aujourd'hui. Pour moi, je pense que j'ai un combat personnel pour avoir plus de femmes dans ce secteur parce qu'il y a certaines professions, par exemple, si on parle de la cybersécurité, oui. Il n'y a que 5% des femmes.
Mais vous, vous ne vous formez pas à la cybersécurité, rassurez-moi.
Aujourd'hui,
en tout cas, ça peut être une première marche, quoi.
Exactement. Je pense que chez Connexio, il y a pas mal des projets en développement. Mm-hmm. Et on a commencé à cibler de plus en plus, peut-être avec des blocs, dans un premier temps, des modules de formation. Oui. Mais effectivement, en fait, d'ici fin 2021, on va avoir nos premiers programmes de formation qui intègrent des compétences en cybersécurité.
D'accord. Ok. Alors, au bout de la formation, qu'est-ce qui se passe pour les apprenants hein ? C'est des formations qui vont de quelques semaines à plusieurs mois. Est-ce que vous avez pu aussi quantifier votre impact ?
Oui, justement, en fait, en termes de nos indicateurs d'impact, aujourd'hui, on avait formé un peu plus de 1300 bénéficiaires, mm-hmm. apprenants. Et pour nous, parmi les indicateurs, on regarde où sont les apprenants, justement, en fait, 6 mois après la fin de la formation. Qu'on définit soit, en fait, par un retour en emploi, la poursuite d'une formation qualifiante ou reprise d'une étude pour ceux, en fait, qui n'ont pas encore fini leur parcours éducatif. Et finalement, on a commencé à avoir un petit pool d'entrepreneurs, donc ceux qui choisissent de lancer leur propre projet. Oui. Et donc, on est à 72% 6 mois après la fin de la formation.
Ah, donc, ils sont soit repris des études, soit trouvé un job, soit ont monté même leur boîte. Donc, c'est plutôt un très, très bon retour sur investissement pour vous, 72%.
Oui, exactement. Et pour nous, en fait, on souhaiterait justement pouvoir améliorer ça et aller en fait encore plus loin.
Alors, pour faire perdurer votre impact, il faut consolider le modèle. Est-ce que c'est le cas pour Connexio ? Voilà, 5 ans que l'entreprise existe. Est-ce que vous êtes rentable ?
Aujourd'hui, on a un modèle de, je dirais, en fait, de plus en plus diversifié en termes de nos activités. Donc, d'un côté, en fait, on a nos programmes de formation. D'autre côté, on aussi commence à adapter aussi en fonction de nos partenaires des programmes de plus en plus sur mesure. Mm-hmm. Parce qu'on voit, par exemple, justement, avec la transformation digitale, on a...
Vous disiez que la crise avait accéléré de 7 fois la transformation digitale.
7 ans, oui, exactement.
Ah, 7 ans, d'accord.
Parce que de jour en lendemain, en fait, on demande... des entreprises de basculer sur des outils complètement en ligne. Et il y a beaucoup, en fait, des publics, par exemple, qui sont justement pas prêts. Et aujourd'hui, par exemple, en France, si on parle des TPE et des PME, aujourd'hui, cette année, on demande, en fait, dans des démarches professionnelles, administratives, par exemple, ces entreprises, de faire des factures électroniques. Oui. Mais ça, en fait, on vient de voir qu'il y a 15% des TPE aujourd'hui qui ne savent pas gérer des factures électroniques encore.
Qui 1% qui ne savent pas ?
40%.
Ah, 40%, d'accord. OK. Oui, effectivement, c'est assez important.
Et donc, on avait vu qu'il y a au niveau en fait, individuel beaucoup je pense que de fractures aussi qui étaient justement montrées en fait ou qui en fait qui étaient devenues plus urgentes suite à la crise, mais aussi dans les petites entreprises, on voit qu'il y a certaines démarches, les chaînes d'approvisionnement ou d'autres démarches qui sont de plus en plus digitalisées. Mmh. Et il y a ce besoin aussi de pouvoir accompagner justement ces structures aussi vers la digitalisation.
Mmh. Donc c'est ce qui vous permet finalement de financer vos formations qui sont gratuites, on le rappelle, et de pouvoir faire vivre votre modèle. Vous avez notamment formé tous les agents des centres sociaux de Paris, hein, c'est ça?
Exactement. On avait formé en 2019, justement, en fait, parmi en fait, nos partenaires, tous les agents qui sont en fait en première ligne, justement, en fait, et qui aident des publics éloignés en fait, du numérique. Donc, pour nous, c'était une manière aussi d'avoir un impact indirect, parce qu'on a formé des personnes qui, ensuite, ont pu aider en fait, des personnes, des bénéficiaires qui viennent dans des agences, dans les centres sociaux, pour leurs différentes démarches administratives.
Hmm. Alors, quand vous avez remporté le Google Impact Challenge, vous avez aussi gagné 600 000 euros. C'est vraiment une somme très, très importante, puis c'est un prix important. Comment gérez-vous une somme quand on est une association, une start-up sociale ?
Aujourd'hui, je dirais en fait, on avait beaucoup justement en fait appuyé sur le financement, le soutien de Google Impact Challenge pour, dans un premier temps, augmenter nos activités en Île-de-France. Donc aujourd'hui, on est présent sur moitié d'arrondissement à Paris, mais également sur cinq villes en Seine-Saint-Denis, où il y a vraiment, en fait, pour nous, c'était être assez proche des besoins. Et on a pu aussi appuyer sur ce soutien de pouvoir démarrer nos activités dans deux nouvelles régions, notamment en Nouvelle-Aquitaine et aussi les Hauts-de-France. Donc pour nous, je pense que c'était une grande dotation qui nous a permis de bien développer. Mais je pense qu'on avait justement bien en fait pouvoir appuyer ce soutien pour un développement de plus en plus envergure.
Alors justement, Connexio dans 3 à 5 ans, ce sera quoi? Quels sont vos objectifs? Vous allez continuer de vous développer dans toute la France, à l'international? Vous allez diversifier vos programmes, j'imagine?
D'ici 3 ans, notre objectif, c'est de former 10 000 bénéficiaires.
Donc 1400 plus ou moins aujourd'hui, après 5 ans d'existence.
Oui, et avec justement en fait, ce changement d'échelle, le fait qu'on aura une présence dans plusieurs régions, notre objectif, c'est d'arriver en fait, à avoir une présence plus importante au niveau national. On reçoit en fait de plus en plus des sollicitations par des entrepreneurs, par des structures dans d'autres régions. Et on est en train de faire justement en fait de voir comment on peut mieux répondre à ces besoins et de pouvoir en fait mieux développer Connexio. Pas aller trop rapidement en fait forcément, mais être sûr qu'on répond bien aux besoins chaque fois. On choisit en fait de s'implanter dans un nouveau territoire. Et deuxièmement, on a aussi cette ambition d'aller au niveau international. Mmh. On avait bien démarré nos premiers programmes au Malawi, dans le camp Jeleka en Afrique. Mais on travaille également pour faire en fait un modèle qui est plus facilement duplicable dans d'autres pays. Notamment, on y travaille justement pour dupliquer nos programmes au Kenya et en Jordanie.
Oui. D'accord. Je lisais quelque part aussi que ça, c'est effectivement pour le développement de votre entreprise, etc. Mais on voit que vous êtes une personne engagée, très déterminée. Vous disiez aussi que Connexio pourrait aussi finalement devenir un mouvement pour l'inclusion en entreprise, la promotion de la diversité dans le monde de la tech. Ça aussi, ça fait partie de vos ambitions ?
Aujourd'hui, je pense que Connexio, on a commencé vraiment petite. On était 5 personnes dans l'équipe il y a 2 ans. Et de plus en plus, on voit avec les besoins et aussi les enjeux devant nous d'ici les prochains mois, mais les prochaines années, qu'on souhaiterait s'y porter un rôle plus important dans l'écosystème. Par exemple, l'année dernière, on était mobilisés aux équipes de Cedrico dans le cadre de Solidarité Numérique pour justement pouvoir apporter des guides, des fiches pratiques pour la plateforme, pour toute personne qui était déconnectée numériquement. Et pour nous, on veut aussi pouvoir, parce qu'on travaille beaucoup avec les publics sur le terrain, on comprend les enjeux de pouvoir remonter ces retours d'expérience, les freins, les obstacles qu'ils rencontrent et pouvoir aussi être force de proposition pour changer la donne pour beaucoup plus de monde que juste au-delà juste de Connexio, mais vraiment en fait toute personne qui peut être concernée ou toute structure par des enjeux d'inclusion numérique d'insertion socio-professionnelle également.
Mmh. Donc vous travaillez avec le gouvernement pour justement apporter des réponses aux problèmes que rencontre votre public ?
Oui, de plus en plus, on souhaiterait pouvoir être cette force de proposition, de pouvoir remonter les challenges qu'on rencontre. Mm-hmm. Et par exemple, dans le cadre de notre engagement, mon engagement en tout cas, avec Impact France, où on travaille justement aujourd'hui sur des questions d'accessibilité numérique. Notre ambition, c'est de justement proposer, d'avoir certaines propositions qui vont favoriser de plus en plus des questions d'accessibilité numérique.
Oui. Impact France, hein, qui est un mouvement qui rassemble beaucoup d'entreprises sociales, de beaucoup d'entreprises à impact, dirigées par Eva Sadoun et Jean Moreau, qui sont tous les deux venus dans ce podcast. Le think tank Sista, qu'on a aussi fait venir dans Impact Positif avec Tatiana Jama, vous a classé parmi les 10 femmes à suivre dans la tech en 2021. Forbes vous met en avant, je le disais en introduction. C'est l'aboutissement de votre travail de fourmi, de votre détermination, ça vous fait quoi ?
Je pense que je vais être complètement là. Je suis super heureuse, mais je pense que ça fait plutôt en fait pour moi. Je pense que je suis toujours heureuse de voir ça, mais je pense pour moi, ce qui me motive à la fin du jour toujours, c'est en fait les belles réussites de nos apprenants. Le fait que je pense que je suis très fière de mes équipes, qu'on est très engagés et le fait qu'on a vraiment cette capacité de transformer, de changer la vie pour beaucoup de monde.
Ouais, justement, si vous deviez nous parler d'un de vos apprenants. Vous prendriez quel exemple ?
J'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, j'avais des exemples de nos apprenants tout au début de notre parcours chez Connexio. Par exemple, je pense à Teba, qui était, en fait, elle était médecin au Soudan et elle avait décidé de lancer sa propre association qui est en fait dans le domaine de la prévention à la santé à Paris. Je pense à Elora, qui n'avait pas eu son bac et elle était la première dans sa promotion d'être embauchée en start-up, où aujourd'hui elle travaille en tant que développeur front-end en CDI. Mm-hmm. Je pense à Azmou, par exemple, qui avait plutôt fait nos parcours de base sur les compétences numériques de base. Il est aujourd'hui en licence 3 à la Sorbonne. Ouais. Donc il y a beaucoup de cas et des belles histoires.
Et de belles histoires, oui. Alors, avec d'autres entreprises, vous avez pris finalement une place qui était vacante, hein, finalement pas occupée par des organismes publics ou pas assez. Comment expliquez-vous qu'il y ait tant de place pour des initiatives privées comme la vôtre ?
Je pense qu'aujourd'hui, on voit que si on parle de la transformation digitale, ces tendances, c'est quelque chose qui bouge énormément et bouge rapidement. Oui. D'ici 10 ans, on voit que c'est 1,2 milliard d'emplois qui vont être impactés au niveau mondial. Pas tout remplacé, bien sûr, mais beaucoup de changements. On voit au niveau européen, il y a beaucoup des personnes qui sont justement éloignées du numérique. On compte à peu près 170 millions de personnes entre les âges de 18 jusqu'à 64 ans. Et donc, je pense d'un côté, c'est les enjeux de savoir comment on va adapter et adapter peut-être avec un certain niveau d'agilité et une certaine vitesse aussi. Et de savoir aussi que les besoins sur le terrain ne sont pas forcément les mêmes en termes des publics, en termes de différents niveaux, en termes de besoins des entreprises. Et je pense que ce qu'on fait est aussi d'autres dans l'écosystème comme nous, c'est de savoir en fait comment bien prendre en compte l'évolution de marché en termes de compétences et pouvoir en fait justement proposer des programmes de formation qui répondent à ces besoins en temps réel.
Alors, Jingo, c'est une tradition désormais dans ce podcast. Un ancien invité pose une question au nouvel invité. Et pour vous, eh bien, c'est Christian Vanizet de Make Sense qui va vous poser une question. C'est normal, c'est lui qui avait parlé de vous d'ailleurs dans ce podcast et qui avait été très impressionné par votre parcours. Alors, je vous fais écouter sa question.
Coucou Jean, c'est Christian de Make Sense. Je suis hyper inspiré par ton parcours, tout ce que tu as réussi à faire en arrivant en France et ensuite aidant les autres personnes qui arrivent avec Connexio. Tu fais partie d'une génération qui a moins de 30 ans, qui va vivre du coup les effets de si on arrive à résoudre le changement climatique et toutes les crises qui arrivent. Malgré les discours un peu catastrophistes ambiants, qu'est-ce qui fait que toi tu restes motivé et que tu te dis que ta génération va pouvoir résoudre ces problèmes ? Et qui du coup fait en sorte que tu as l'espoir et la motivation chaque jour quand tu te lèves le matin pour continuer cette aventure. Je pense qu'on en a tous besoin au sortir de cette crise Covid. Merci beaucoup.
Voilà pour la question, Christian.
Je dirais en fait en termes de la motivation, je pense que vraiment c'est parce que quand je suis arrivée en France au début, j'avais, je pense que pas autant de confiance même pour pouvoir lancer un projet. J'avais des gens qui m'ont dit mais pourquoi toi, pourquoi le projet, pourquoi tu es en France, pourquoi parce que je parlais pas très bien le français aussi à l'époque et tout ça c'était dur. Mais je pense que le fait pour moi c'est et la motivation que j'ai toujours et je sais que j'avais dit ça un peu rapidement, mais je pense pour revenir en fait vers vraiment en fait ce que je vois sur le terrain, mes apprenants en fait qui vont m'envoyer des petits messages. Par exemple, je viens d'avoir un apprenant, Stan au Malawi, qui m'a invité à son mariage. c'était un peu compliqué d'y aller, mais le fait que en fait on a des personnes qui ont pu vraiment réussi, et pour moi, ce qui est très important de réussir en fait de leur propre moyen aussi. C'est quelque chose qu'ils souhaitent faire, c'est quelque chose qui les donne aussi cette envie de créer en fait cette cercle vertueux pour d'autres personnes, de vraiment en fait faire cet empowerment pour d'autres et savoir qu'ils vont de leur tour avoir un impact en fait dans la vie de leur famille, de leurs proches, et encourager d'autres personnes d'aller encore plus loin. Je pense que c'est quelque chose qui me drive, qui me motive toujours, parce que pour moi de plus en plus je crois dans un monde plus divers et plus riche, justement avec tous ces nouveaux profils. Et je pense que pour moi dans le futur tout le monde qui vont être en fait décisionnaires, qui vont être décideurs, doivent justement en fait à la tête des entreprises ou en fait dans d'autres grands mouvements doit refléter notre diversité. Et donc je pense que je veux avoir en fait ce petit rôle dans la création ou dans le de pouvoir en fait faire l'empowerment de notre future génération des jeunes, des leaders, des personnes qui veulent vraiment en fait changer le monde.
Alors justement, quel regard portez-vous sur la France et l'intégration des personnes qui sont immigrés, c'est un sujet très sensible, à un an de la présidentielle, il y a une forte tendance de repli sur soi, tendance à exclure plutôt qu'à accueillir, et comprendre, tendance à pointer du doigt les abus plutôt que la détermination de certains à s'en sortir. Quel est votre regard ?
Ouh, c'est une question, je dirais, pour le futur, et je pense que je crois en fait toujours en ça. On est dans un monde en fait de plus en plus globalisé. On partage les mêmes enjeux sur le changement climatique, sur d'autres questions en fait économiques. On est de plus en plus liés. On avait vu ça avec la crise Covid, que quelque chose qui commence, qui touche en fait un pays, va rapidement en fait toucher le monde entier. Mm-hmm. Et donc pour moi, je pense qu'on peut vraiment pas vivre dans des silos, parce que juste je pense logistiquement, en fait, sur plusieurs aspects, c'est de moins en moins possible de continuer à faire ça. Et je pense, pour moi, il faut en fait appuyer sur les talents en fait qui viennent d'ailleurs, les talents en fait qui sont d'ici d'ailleurs aussi, mais peut-être qui n'avaient pas eu en fait le bon accès et des informations, des opportunités. Je pense pour
ça,
moi,
ça c'est votre dada, vraiment aller chercher des gens qui ont du potentiel mais qui ne savent pas décrocher les opportunités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous motive.
Oui, et pour moi personnellement, parce que je me dis, pour moi, si je n'avais pas eu accès à mon tour à certains professeurs au lycée ou certaines personnes qui m'ont poussé à postuler pour en fait certaines universités, je n'aurais pas eu mon parcours.
Vous n'auriez pas eu l'idée de le faire vous-même, en fait.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est très important de pouvoir faire ça. Et je dis aussi toujours, en fait, cette expression en anglais que talent is equally distributed, but opportunity is not. Et je pense que ça, c'est vraiment, en fait, ce qui nous motive, en fait, chez Nexio, dans mes équipes, c'est de dire comment en fait on va changer ça pour les autres personnes. Et donc je pense que pour revenir à cette question de où en fait va en fait être notre monde, je pense que le plus on va pouvoir appuyer sur des gens avec des parcours, des cultures, des vécus très différents, le plus en fait ça va en fait générer plus de créativité, d'innovation. Je vois ça comme vraiment en fait un valeur en fait économique aussi pour la société.
Alors, Jean, je termine toujours ce podcast par cette interview dans l'interview. C'est l'interview des clics. Et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans ce contexte particulier post-crise sanitaire ?
J'ai une phrase que j'aimerais dire, si je parle sur toujours en anglais, c'est un peu start before you're ready, dans le sens...
Start before you're ready.
Oui.
Ah oui, d'accord.
C'est un peu contre, en fait, c'est pas si intuitif, mais pour moi, je dirais que c'est très important parce qu'on peut être trop perfectionniste et dire, je vais lancer tant que j'ai ça, ça et ça. Et je pense qu'on va toujours décaler, ça c'était mon expérience à moi.
Oui, parce que vous ne parliez pas, presque pas français finalement, quand vous vous êtes lancé.
C'est compliqué, oui, je pense que... Donc je pensais que je vais attendre. Et au bout d'un moment, il faut lancer et savoir que cette première version de produit ou de quelque chose que vous allez sortir, ce n'est pas la version parfaite. Mais ça, c'est totalement OK parce que l'objectif, c'est de pouvoir travailler pour améliorer, toujours itérer et vraiment en fait, faire ce mode test and learn. Mmh.
Quel conseil auriez-vous aimé avoir au début de votre carrière, qui n'est pas non plus si long que ça, mais bon, quand même.
Je dirais avec... après, je pense que je suis lancée quelques années dans Connexio, mais peut-être, je ne sais pas si je sens complètement légitime de dire ça, mais je dirais peut-être plus prenez en fait ta place. Parce que je pense qu'au début, je n'osais pas faire certaines choses. Je n'osais pas, parce que oui, il y avait ce...
Mais votre parcours vous a quand même aidé, parce que tout le monde ne fait pas Harvard, tout le monde ne fait pas Stanford, ça c'est quand même des bonnes cartes de visite quand on arrive quelque part.
Oui, je pense que je me plains pas. Je pense que ça m'a beaucoup aussi aidé d'un côté. Après, je pense que aussi le fait que je suis jeune, je suis une femme, je pense qu'il y avait certaines autres choses. Je pense que juste sur moi-même, je pense que c'est moi qui m'a limitée. En fait, et je pense que si je dois à certaines choses sur moi, c'est en fait oser en fait prendre cette place, oser parler parce que je pense que c'est quelqu'un en fait d'autre, une apprenante qui m'a dit ça en fait il y a quelques jours. Si en fait il n'y a pas en fait plus des femmes en fait qui sont dans certains rôles, en fait, si c'est pas vous, c'est qui?
Oui.
Et donc je pense que j'essaie de en fait essayer d'intégrer en fait ce type d'expression aussi de dire en fait pour moi c'est important en fait de faire ça parce que il faut en fait qu'on brise certaines barrières, il faut qu'on brise certains murs pour justement avoir plus de parité, plus de diversité.
Mmh. Alors le ou la mentor que vous auriez rêvé de croiser ou qui vous auriez rêvé qui vous accompagne dans votre projet.
Ouh, ça c'est très difficile. Je pense que j'avais je pense beaucoup la chance d'avoir en fait des super role models. Je dirais Roxane Varza, justement en fait.
C'est la patronne de Station F.
Oui, et comme en fait on faisait partie de la promotion, première promotion de Factors, je pense qu'elle m'a justement en fait guidée et je pense qu'elle a été vraiment en fait une des premières personnes qui m'a vraiment en fait donné cette confiance d'aller plus loin. Mm.
Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si
J'avais pas eu le soutien de ma mère.
Oui, votre maman qui, elle, a galéré, on va dire, hein, pour finalement trouver sa place aux États-Unis. Barrière de la langue, barrière de la culture.
Exactement, je pense pour moi, et je pense que j'ai grandi avec, je pense que c'était juste moi et ma mère quand j'étais petite. Je pense que le fait d'être en fait très indépendante à du petit âge, de devoir déjà en fait pouvoir faire des traductions, des courriers, de l'aider en fait, je pense que ça m'a donné beaucoup aussi en termes d'apprentissage, comment en fait on va en fait aller en fait faire les choses par nous-mêmes. Et donc je pense que si j'avais pas eu ça en fait quand j'étais plus petite, j'aurais pas peut-être osé en fait installer dans un nouveau pays, créer quelque chose sans connaître les règles, sans connaître comment faire des choses, voilà.
Ouais, ça vous a donné en tout cas la détermination de déplacer les montagnes. Votre plus bel échec?
Ouh, je pense que j'ai beaucoup d'échecs. Je dirais parmi les bel échec, je pense que c'est bon paradoxe. Je dirais en fait parmi les premiers échecs chez Connexio, c'est quand je suis allée en fait faire un tour des espaces publics numériques. J'ai sollicité tous les espaces au début, une quinzaine, pour trouver en fait finalement une salle qui nous a hébergé gratuitement.
Oui.
Donc j'avais eu 14 échecs.
Finalement, personne ne voulait vous héberger.
Non, soit en fait, je pense que je parlais pas très bien le français pour qu'ils me comprennent. En fait, prennent à la base où j'avais pas en fait le financement pour louer la salle.
Mmh. Et comment vous avez trouvé, comment vous avez réussi à parvenir à vos fins?
C'est en fait justement en fait une autre en fait belle histoire parce que j'ai pu convaincre en fait la coordinatrice de l'EPN qui s'appelle le EPN le Picoulet, c'est le centre social Picolé dans le 11e, qui était justement attiré par la proposition de cours. Elle nous a acquis. Elle s'appelle Nassara. Et 2 ans après, en fait, elle est intégrée dans notre formation Connexio pour devenir développeuse web. Où aujourd'hui, elle travaille chez Thales.
Très bien. Alors, une qualité essentielle pour entreprendre aujourd'hui ?
L'empathie. Dans le sens que je pense que de plus en plus, pour moi, en tout cas, en fait, dans mon job, si j'étais pas capable de comprendre les enjeux, les freins, les obstacles des personnes pour lesquelles pour qui on travaille aujourd'hui, je pense qu'on n'arrive pas bien justement créer des programmes et en fait aider des gens en fait à pouvoir aller jusqu'au bout de leur parcours d'intégration professionnelle.
Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment?
Je pense, intuitivement, je pense qu'on a tous des enjeux, en fait, des choses qui nous frappent. Je pense que, pour moi, en fait, je dirais, en fait, parmi les enjeux, ça peut être, en fait, des questions de santé, de changement climatique, d'autres causes. Je pense qu'on a tous quelque chose qui est même au fond de cours qui nous, en fait, motive, en fait, qui nous touche. Et je pense que pour moi, c'est de commencer par ça. Commencer par la cause qui va, en fait, vous, en fait, faire, en fait, travailler, même malgré tous les obstacles. Je pense qu'il faut juste, pour moi, écouter, en fait, parce que je pense que c'est déjà là.
Alors, Jean, vous avez dit dans une interview, les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent un sens. C'est une phrase que j'aime bien, donc je termine cette interview par ça. Merci beaucoup, Jean Guo. On retrouve votre actualité sur le site Connexio. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et on suivra donc vos développements. Merci beaucoup, Jean, et en tout cas, très très bonne route à vous.
Merci beaucoup à vous.
Bon, bah, très bien, ça s'est bien passé?
Oui, oui, je pense que vous avez quand même bien fait les recherches.
Oui, oui, c'est normal.
Non, c'est bien parce que je me dis, quelquefois, c'est, il y a des questions en fait, plus générales, mais je pense que c'est bien parce que je pense qu'on est entré en fait, rapidement dans le sujet. Et j'ai l'impression que en fait, vous parlez rapidement, je parlais aussi rapidement.
En plus, j'ai fait attention, c'est encore trop rapide.
Non, c'est bien.
Je me soigne.
C'est bien. Comme, je pense que comme ça, on couvre plus de. Oui, exactement.
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à David Furor pour la réalisation. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à parler de nous et à nous noter. Grâce à vous, les auditeurs, Impact Positif s'est développé. En plus des réseaux sociaux, Twitter et Instagram, vous nous retrouvez sur lci.fr, sur une page spécialement dédiée à Impact Positif. À très vite pour un nouveau numéro du podcast.